Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, si nous voulons faire un authentique carême, autrement dit, si nous voulons être d'authentiques chrétiens, il nous faut vivre cette réalité centrale de la foi et de la charité, à savoir le combat spirituel. Il est de tous les âges et de toutes les conditions de vie. Et il s'impose à nous comme une nécessité vitale, depuis l'éveil de notre conscience jusqu'à notre dernier souffle. Tous les saints, tous les prophètes, tous les amis de Dieu l'ont mené ce combat, et tous les damnés s'y sont soustraits par négligence ou par lâcheté. La vie chrétienne, qu'est-ce donc, sinon imiter le Christ, suivre le Christ, être son disciple, son compagnon, son ami, son serviteur. Et nous voyons notre Seigneur en butte aux contradictions, aux oppositions, aux persécutions et aujourd'hui aux tentations. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit, nous dit le récit évangélique, qui le conduit, qui le pousse au désert pour y être tenté. Aucune de nos misères, aucun de nos combats ne lui sont étrangers. Il a assumé notre nature humaine dans sa fragilité et dans sa mortalité. Et il a tenu tête au diable. Il remporte aujourd'hui sur le tentateur cette première victoire qui inaugure sa vie publique et son ministère au service du royaume des cieux. Et cette victoire, dont nous faisons mémoire en ce premier dimanche de carême, annonce la victoire définitive qu'il va remporter sur Lucifer au calvaire, ce dont nous ferons mémoire durant le temps béni de la Passion, victoire qui sera manifestée au monde visible et invisible au matin de la résurrection. Cette victoire intervient après un dur combat, une lutte qui fut inaugurée avant même le début de l'histoire humaine, au moment du combat céleste entre les anges déchus et les anges qui sont restés fidèles. Une lutte dont l'enjeu est le salut du genre humain après que le démon a réussi à séduire nos premiers parents en les entraînant dans un chemin de séduction malheureuse et de perte assurée. Mais immédiatement après la chute d'Adam et d'Ève, dans les premiers versets de la Genèse, Dieu annonce la venue d'un sauveur qui écrasera la tête du serpent. Notre Seigneur est donc aujourd'hui tenté par celui qui ignore encore réellement son identité, car la capacité de nuisance du démon est limitée par l'autorité du Créateur, dont il dépend radicalement pour persévérer dans l'être. Et c'est justement cette dépendance radicale que le démon a en horreur, car il déteste la vérité. Notre Seigneur, d'ailleurs, le décrit comme le menteur et l'homicide dès l'origine. Il nie la réalité même de son être, c'est-à-dire la réalité d'une créature qui, comme toutes les créatures, est suspendue pour persévérer dans l'être au geste créateur. Nier à ce point son origine, son identité, la constitution de son être et donc sa destinée, cela constitue la plus grande violence qui soit. C'est la source d'une souffrance que nous pouvons certes concevoir, mais que nous ne pouvons ni imaginer, ni même éprouver. C'est la souffrance du démon, c'est la souffrance des damnés, et c'est justement pour nous sauver de ce désespoir et de cette mort éternelle que le Christ, dès le premier instant de sa conception humaine dans le sein de la Vierge Marie, à entamer ce grand combat, cette lutte à mort, pour que nous ayons la vie et une vie en plénitude. Cette vie, donc, nous l'avons reçue au jour de notre baptême. Autrement dit, sans mérite de notre part, nous avons bénéficié en ce jour béni du fruit de la victoire du Christ sur le démon. Et le combat spirituel consiste donc pour nous à permettre à cette vie divine de prendre en nous toute sa place pour qu'elle puisse rayonner sur ceux qui nous entourent. Le Christ nous fait don de sa propre sainteté. Il nous revêt de sa sainteté puisqu'il a revêtu notre humanité. Le Saint-Esprit nous communique tout ce dont nous avons besoin pour mener à bien ce combat, pour être des chrétiens authentiques, selon la description qu'en fait saint Paul, des chrétiens patients, longanimes, purs, véridiques, chastes et justes. Et pour cela, il nous faut à notre tour lutter contre les trois grandes tentations diaboliques. Satan, en effet, nous pousse tout d'abord à ne rechercher que la satisfaction de nos besoins temporels ou charnels. Certes, nous avons tous besoin de nourriture et de boissons. Il nous faut nous habiller, nous chauffer, nous vêtir. Mais il suffit de regarder nos journées et notre cœur pour voir que nos vies sont occupées bien au-delà du raisonnable par la recherche de ce qui est au-delà ou de ce qui va au-delà de notre subsistance. La recherche effrénée des plaisirs mondains ou des satisfactions, le besoin jamais satisfait de nouveautés, la soif des biens de consommation les plus divers et les plus inutiles, nous détournent parfois gravement, parfois irrémédiablement, ce qu'à Dieu ne plaise, de notre vocation. Nous oublions tellement facilement la raison de notre présence sur terre, qui est bien de rechercher Dieu, de vivre de sa présence et d'accomplir sa volonté. Alors, interrogeons-nous pendant ce carême sur notre superflu qui nous empêche de nous préoccuper sérieusement de notre salut. La deuxième tentation diabolique consiste à tenter Dieu, c'est-à-dire à ne pas rechercher vraiment à accomplir sa volonté, à mettre sa puissance et sa bonté au service de l'accomplissement de nos désirs mesquins, alors que Dieu, par sa grâce, a mis dans notre cœur un autre désir qui dépasse infiniment nos pauvres forces humaines et que lui seul peut combler. Ainsi, si nous prions, c'est pour obtenir tel ou tel bien matériel, telle ou telle protection, d'être délivré de telle ou telle souffrance, d'une contrariété ou d'une difficulté. Autrement dit, nous demandons à Dieu de nous rendre service alors que notre vie éternelle dépend justement de la qualité du service de sa gloire. La troisième tentation est celle de l'idolâtrie, c'est-à-dire de l'oubli de Dieu, l'oubli de sa présence et de ses droits de créateur et de rédempteur. C'est ainsi que nous agissons chaque fois que nous péchons. Concrètement, nous agissons comme si Dieu n'existait pas. Or, le combat spirituel nous donne de mettre concrètement Dieu à la première place dans nos vies et dans nos préoccupations. Mais pour cela, nous devons donc consacrer plus de temps à la prière personnelle et liturgique, à la méditation quotidienne de la parole de Dieu, à l'étude de la révélation et de la doctrine chrétienne. Notre désir de conversion doit aussi se manifester par des gestes très concrets de pénitence et de service du prochain, ce que nous appelons les actes d'exercice de miséricorde. Que cette miséricorde vienne au secours des besoins temporels ou spirituels de nos proches et de nos contemporains. Que le Saint-Esprit nous inspire les résolutions qui nous rapprochent en ces jours du Seigneur Jésus à jamais victorieux de la tentation et de la mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.